je n'aime pas la littérature de divertissement. Ça, c'est une chose. L'art n'est jamais un divertissement pour moi. J'ai une vision assez janséniste de la chose. C'est pascalienne. Pascal est une des choses que j'ai le plus lues et qui, sans doute, le plus du tôt et vite compté pour moi. Cette phrase, la première des deux phrases sur la honte de s'être vu lire et entendu lire, ce n'est jamais, bien évidemment, c'est pas le lecteur qui me fait honte, c'est l'écho chez le lecteur de la honte que j'ai eu d'écrire quelque chose. Il s'agissait de l'IV, je crois, en l'occurrence. Cela revient à dire que ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, que j'aurais écrit au moins ce livre contre moi. Et que j'aurais réussi à l'écrire à ce point-là contre moi, que j'en aurais éprouvé un embarras considérable après coup.
On reste dans l'humiliation, presque.
Oui, mais pas totalement, puisque si on peut en faire quelque chose qui modestement prétend à la forme d'art, on a quand même accompli un geste réparateur. L'humiliation s'en trouve comme... Donc c'est la part du secret. Le pire, je ne crois pas que j'ai employé le mot moi-même, d'ailleurs. Mais c'est un mot que je craindrais, parce que là, il y aurait une délectation de cela, et je n'aimerais pas donner l'impression ou laisser penser que je me complais dans une délectation du pire. Généralement, je le fuis moi-même. Je veux dire, nous sommes constitués tous par un principe de survie qui fait que nous ne sommes pas, le reste du temps, quand nous n'écrivons pas, portés à le fuir. Fuir des souvenirs, fuir des tragédies, des douleurs, etc. C'est très naturellement le mouvement par lequel on est porté, et heureusement. Il ne s'agit pas non plus de faire peser constamment quelques souvenirs, tragédies, etc. sur autrui. Très généralement, on s'en abstient par discrétion et par délicatesse pour autrui. Bon. S'il y a un lieu où ce que vous appelez le pire, appelons-le peut-être cette douleur, appelons-la comme ça, je ne sais pas, ou cette expérience douloureuse, enfin, je n'aime pas très ces mots, aucun de ces mots me plaît. Disons le pire, reprenons le vôtre, votre mot, il est aussi bien après tout. S'il y a un lieu où ce pire peut se réfugier, c'est dans l'art. Je ne veux pas dire qu'il ne doit y avoir d'art que du pire. Certainement pas. Je veux dire qu'il n'y a pour moi d'art... Enfin, il n'y a à ce moment-là pour moi d'art que du pire. Peut-être était-ce... J'étais plus jeune, les choses sont toujours plus tendues. Il n'y a pas la sérénité qu'on a après, dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'y a pas cette acceptation, ce consentement d'être le même que cela qu'on a pu vivre et qu'on a dû écrire ensuite. À ce moment-là, sans doute, j'ai fait l'expérience de ce que c'était que d'être lu quand on a écrit quelque chose, d'être lu par quelqu'un qui approuve quelque chose qu'on désapprouve soi-même. C'est une expérience relativement étrange. Et d'un coup, des gens sont venus me remercier d'avoir écrit des choses dont j'imaginais tout de suite, et je voyais très bien qu'elles touchaient à des choses qui les intéressaient, qui les concernaient, qui étaient de l'ordre de leur propre expérience, de leur propre douleur. De la honte et de l'humiliation, disait-on tout à l'heure, essentiellement des hontes et des humiliations enfantines, d'ailleurs. Il y a là une brèche de vérité qui passe souvent par le pire, dans la mesure où c'est ce que généralement on tait. On tait pour constituer une sorte de socle psychique et identitaire largement fictif, que la psychanalyse, par d'autres moyens et dans d'autres fins, parce que la psychanalyse a des fins, à la différence de l'art, ouvre aussi. Alors c'est de ce pire-là que je parle, loin de toute espèce de délectation à la mal d'aurore, mais c'est vrai que les œuvres qui m'ont constitué en tant que lecteur, puis ensuite en tant que, à mon tour, essayant d'écrire des livres, ce sont des œuvres, quelque chose de cet ordre que vous appelez le pire, mais on dira que c'est généralement, on définira ce pire-là par ce que généralement on fuit. Le pire de point, ce que généralement on fuit. Et qui n'a de lieu que dans l'analyse, pour ceux qui entreprennent l'analyse, dans la littérature. Mais je pourrais faire une extension du côté, par exemple, de Guyotat, dont on n'a pas parlé. Quelque chose du pire est entré dans la littérature par le moyen de Guyotat. Pas seulement, d'autres avant lui, bien sûr, mais quelque chose de l'expérience du pire est entré dans la littérature par le moyen des livres qu'il a écrits, qui n'existent à un état égal ou nulle part ailleurs.
Recite légèrement, avec légèreté, la bassesse, autant dire la matière, le mot qu'il a à la fin le mieux travesti, duquel le mot matériologie cherche à être la réparation. Ça, c'est dans le premier volume de Matériologie, dans l'entrée en... Dans l'entrée en matière. Donc, Matériologie, c'est ce cycle de trois livres. Vous avez dit que vous en avez, qu'il y en aura un quatrième. Et donc, vous parlez de réparation. Donc, dans ce cas, est-ce que humanimalité, ça ne serait pas l'aboutissement de cela? C'est-à-dire que honte et consolation iraient ensemble?
Matériologie comme réparation, c'est la réparation du mot matérialisme, parce que je fais l'hypothèse, j'essaie de la démontrer, que le matérialisme a triché et a réélevé des valeurs qui ne devaient pas prétendre à la hauteur. Et qui, en sorte, je dénonce, je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais je dénonce dans le matérialisme ainsi qu'il s'est constitué et qu'il s'est propagé, une sorte d'idéalisme secret, d'idéalisme intestin, dissimulé. La consolation, c'est autre chose. L'humanimalité, c'est vraiment... En cela, voilà un livre qui, très exactement, n'est pas prémédité et qui est bourré de contradictions, dans la mesure où c'est un livre qui se tient sur une corde raide entre impossibilité de la consolation, ou désir de consolation plutôt, et persistance, endurance de la douleur, de l'humiliation, de la honte. Des œuvres, des pensées, des foules, de l'histoire. S'est constitué sur l'idée de la consolation. L'aspiration à la consolation, nous n'en sommes pas quittes. La consolation au sens historique du terme y compris. On ne sait pas pour rien qu'on voit les foules, maintenant, en masse, se retourner vers leur vieux dieu, donc vers des chimères. C'est parce que ce désir de consolation chez elle reste fort, et il y a lieu qu'elle le soit, parce que l'histoire les lèse profondément. Appelons ça l'injustice, si vous voulez. L'histoire qui lèse, c'est l'injustice. Historique, sociale, etc. Toute une humanité se tient sur cette corde raide, ne conciliant rien, ne cherchant pas à concilier. D'un côté, des œuvres s'élèvent et se dressent dans un désir, mû par un désir de consolation. De l'autre, je prends des figures de la littérature qui montrent combien d'autres figures, celles-ci, éminemment humaines, allaient être bientôt exterminées. Donc c'est dans l'espace de l'Europe juive, d'Europe centrale, chez Kafka, chez Schulz, chez Blecher, chez Onga. C'est cela à quoi je me tiens.
Je vous recite juste une fois et on va faire la transition vers Guyotta. Je souhaite qu'on parle assez longuement de Pierre Guyotta et de ses textes. Cette transition, je la trouve dans Humanité. C'est une phrase vraiment prétexte hein, à laquelle il n'y a pas lieu de débattre dessus. C'est... Vous dites « Cet homme d'en bas, à la rencontre duquel il faudrait descendre et pour lequel il compose en effet cet hymne, il n'y a pas jusqu'à Hugo qui ne le haïsse en fait ou qui n'en ait honte. En réalité, le désir qui anime celui-ci, dans sa pitié encore toute chrétienne, c'est de faire qu'il ne soit plus en bas. C'est qu'il en remonte. » Et ce que j'aimerais ça vous poser comme question, c'est est-ce que votre intérêt pour Guyotta, est-ce que c'est pas ça, justement ? Son monde n'a pas honte de ce qui est bas. Il n'y a pas de honte dans son monde.
Et même de l'amour, pour ce qui est bas. C'est sans doute l'une des avancées considérables de l'œuvre de Pierre Guyotta. Peut-être n'a-t-il décrit qu'un monde éminemment bas, où il n'entre pas de jugement, où n'entre aucun jugement, où n'entre aucune psychologisation. Les seules formes d'élévation sont les rachats, je veux dire d'esclaves, de putains. Donc on est dans un monde éminemment matérialiste. Et c'est difficile de parler de Guyotta sans entrer tout de suite dans des complexités. Un fond chrétien dans cette œuvre-là, quand même, aussi. Mais d'un christianisme qui ne se serait pas érigé... d'un christisme, peut-être. Pas d'un christianisme, d'un christisme. Quelque chose qui serait demeuré fidèle à ce que au message initial et qui montrait un goût délibéré, provoquant même ostentatoire et provoquant pour les putains, pour les pauvres, pour les malades, pour les infirmes, etc. Toute une humanité. Alors évidemment, cette humanité-là était quand même promise d'être rédimée, donc on est toujours dans la même. Enfin, il y a longtemps. C'est une légende, c'est un mythe magnifique d'ailleurs, mais qui nous irrigue tous. Tout le jeu de christianisme nous irrigue profondément. Mais Pierre Guyotat peut-être maintient-il ses figures dans l'état où l'histoire les abandonne. Je voudrais dire, avant qu'on commence à parler un tout petit peu plus de lui, j'ai dû sans doute davantage admirer l'œuvre. J'ai dû d'abord admirer l'œuvre avant de la comprendre. Vous la comprendre, c'est beaucoup dire. Mais sans doute, j'ai d'abord été plus admiratif du poète, épique, par exemple, chez lui, donc de la langue, puisque par quoi nous avons commencé. Et utile d'écrire autre chose, ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose à mon jugement. Il s'y est ajouté que j'y ai vu ça, ce qui me la rendait plus chère et plus familière. Mais d'abord chez moi, le poète a prévalu. Et ensuite, ce qu'il est peut-être même à son insu, le penseur aussi qu'il a, bien sûr pas à son insu, mais tout poète, c'est ce que je m'obstine à essayer de démontrer, tout grand poète ou tout grand écrivain est un penseur, ou pense, en tout cas l'œuvre de tout grand poète, ou c'est la phrase de Deleuze, l'art pense, toute œuvre de grand poète ou de grand pense évidemment.
Alors, je vais faire une hypothèse, parce que dans Progéniture, j'ai pas trouvé de révolte. Or, c'est un monde qui est bas, et la langue utilisée dans Progéniture, c'est la langue des putains. Donc, le putain est ce qui est bas. Et je fais l'hypothèse que, justement, c'est parce que cette langue est la langue des putains, et la langue de ce qui est bas, que cette langue n'a pas honte des putains, que cette langue n'a pas honte de ce qui est bas, et c'est parce qu'il n'y a pas cette honte de ce qui est bas, le monde de Progéniture ne contient pas de révolte.
On est dans une situation plus délicate avec Pierre Guyotat, puisque pour les écrivains dont nous parlions à leur place, ceci n'étant plus là, Pierre Guyotat pourrait lui-même dire que ce que j'écris sur lui est une hypothèse. Bien évidemment, ce n'est qu'une hypothèse. D'autres en produiront d'autres, et vous-même en produisez une là. Comme vous partez de mon hypothèse pour en proposer une suivante, je vais essayer d'y penser. Il est certain que Pierre Guyotat, il est certain à mes yeux, j'aimerais bien qu'il soit là pour me contredire. Il m'est arrivé d'ailleurs déjà de parler de lui en public devant lui, ce qui est très difficile. Je suis assez enclin à penser comme vous qu'en effet, il confère une dignité éminente au putain, qui est l'une des figures, peut-être la figure centrale de Progéniture, et qui est la dignité de la langue. Par là, il opère un renversement tout à fait considérable, puisque ce qui est bas, comme vous le dites et comme je le dis, est ce qui est généralement dépourvu de langue, ou dont la langue serait sans dignité. Ça me fait penser bien évidemment à la phrase de Deleuze au sujet de Kafka, évidemment, c'est que la littérature s'invente un peuple. Et en l'occurrence, là, à ce peuple-là, une langue a été donnée. C'est un geste démiurgique d'ailleurs, c'est un geste que je trouve pour ma part tout à fait magnifique, sans beaucoup de cas semblables dans la lecture. Elle ne se révolte pas, ce peuple ne se révolte pas. C'est une des énigmes, et une des énigmes douloureuses de ce livre considérable. Je ne peux pas ne pas penser non plus que beaucoup des conversations que nous avons, Pierre Guyotat et moi, sont des conversations de caractère politique. Et je ne peux pas ne pas penser au fait que Pierre Guyotat est, et se considère, et est réellement, un écrivain engagé. N'engageant certainement aucune des formes de son art dans quoi que ce soit, mais engageant sa personne, l'ayant engagé souvent, il l'engage encore, et engageant son œuvre, sans conscience aucune des formes que l'histoire attend. Les pouvoirs constitués dont on parlait tout à l'heure, les formes de propagande, les formes de parole autorisées, mais inventant, au contraire, fournissant une langue à ce qui n'en a pas. Et peut-être est-ce déjà cette langue une révolte, qu'elle ne dise pas, qu'elle n'énonce pas, qu'elle ne produise pas les éléments de son propre surgissement en tant que révolte. C'est sans doute le cas, c'est ce que vous pensez, j'en suis peut-être pas absolument convaincu, mais déjà le fait que cette langue existe constitue une révolte, une sorte d'attentat produit contre les langues hautes, contre les grandes langues dans lesquelles sont toujours produits les jugements, le jugement, ce sur quoi je reviens assez souvent quand je parle de lui. Je n'oublie pas non plus que Pierre Guyotat a été inscrit au Parti communiste et a considéré à un moment que c'était une sorte de chose logique, après 68, que d'y entrer, d'en sortir aussi d'ailleurs, évidemment. Mais il a cherché des formes pour faire que la discontinuité ne soit pas radicale entre ce qu'on produit dans l'œuvre et ce pourquoi il faut qu'on milite quand même pour pas que les choses empirent.
Parlons de révolution, c'était pour la dernière partie de cet entretien. Et là, je vais vous citer encore à nouveau de ce que vous dites dans Humanimalité. Décidément, moi, Humanimalité m'a fait un gros effet parce que plein d'éléments, j'y trouve des éléments sur la révolutionnalité, justement. Et pas forcément toujours dans la révolution rêvée. Et puis, il y a ce rapport avec ce qui est bas, justement. Donc, je vous cite. Et tous sont attirés par ce qui est haut, qui veulent que ce qui est bas le soit aussi. Mais c'est une méprise. Entre toutes les méprises qu'on pouvait faire, la plus grave. La révolution ne cessera pas d'être une horreur. Un peu plus loin. Quoi qu'elles disent, les révolutions n'ont jamais cessé de désirer opposer à la fin, auteur et auteur, l'une contre l'autre, de vouloir mettre l'une à la place de l'autre, ne cessant jamais d'aimer la auteur en tant que telle, au détriment non seulement de ce qui ne le veut pas, mais même, mais surtout, de ce qui ne le peut pas. Ou pas sans mal ni douleur, de là sont nées les idées de correction et de rééducation dont sont nés à leur tour les camps des mêmes noms. Je vous cite encore et je vous pose ma question. C'est toujours dans Humanimalité. Un jeu entre toutes les formes de ce qui est bas et de ce qui y consent ou de ce qui s'y soumet commencerait alors, qui, si on le jouait, aurait quelque chance de former des représentations non idéalisantes, au moins, révolutionnaires peut-être. Ce travail sera fait un jour, le jour où la pensée cessera de fuir ce qui fait honte. Il le faudra du moins aux pensées qui se prétendent révolutionnaires. Ma question, c'est est-ce que ce n'est pas là l'objet de votre travail actuel et futur? Est-ce que ce n'est pas la clé de vos textes et de votre travail, ça? Parce que vous ne fuyez pas devant ça.
La clé est une question, c'est-à-dire comment négocier le rapport entre ce qui est écrit là et ce que les révolutions sont. C'est la méprise tragique que l'histoire révolutionnaire récente, un siècle et demi, nous apprend. Toutes les révolutions se sont retournées en leur contraire. Elles se sont retournées en leur contraire, c'est l'hypothèse que je fais, parce que le matérialisme auquel elles prétendaient qu'elles obéissaient n'était qu'un faux matérialisme. Que toujours un idéalisme les a teintés peu à peu pour accoucher toujours de ce que les révolutions disent toutes d'un homme nouveau. Cet homme nouveau est toujours paré des mérites et des vertus les plus considérables. Ça se fait par force. Ça ne se fait jamais autrement que par force. Je ne sais pas pourquoi. Je vois bien là-dedans ce qu'il entre de l'héritage judéo-chrétien, et ce qu'il s'y produit encore de volonté d'élévation, forcée, contrainte, j'y insiste, parce que un déni est constamment opéré. On pourrait dire les choses vite et simplement. C'est comme si Freud n'avait pas existé. On a l'air de ne pas pouvoir mesurer que la part pulsionnelle, la part désastreuse, la part empirique de l'homme réservera toujours le sort de la révolution. Et comme on ne peut pas l'inviter par une sorte de tour de prestidigitation idéologique, changer un homme asservi en un homme maître et souverain, on va devoir débusquer partout où il y en aura encore des restes de sauvagerie et de servilité. C'est le paradoxe des révolutions. C'était ce paradoxe bien connu, et c'est le paradoxe même des procès sur lequel je reviens longtemps dans la révolution rêvée. C'est-à-dire, on va devoir accuser, et même mieux, s'accuseront eux-mêmes, tous ceux qui ne seront pas dignes de cette hauteur à laquelle on les place indûment. C'est une erreur absolument tragique. Faut-il pour autant, et ce n'est pas mon cas, j'y réponds immédiatement, faut-il pour autant faire le deuil des révolutions? Le deuil des révolutions qui ont été accomplies, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est une histoire tragique, c'est pas la guerre nécessaire de le répéter, tout le monde en convient. Faut-il pourtant se résigner à l'état actuel des choses, c'est-à-dire, comme vous le disiez juste auparavant au sujet de Pierre Guettard, ne pas se révolter? Alors les questions deviennent absolument complexes et échappent là largement à ce que nous pouvons penser, nous. C'est le passage de la révolte à la révolution, autant la révolte semble naturelle, appelée par tout, la nécessité, le besoin, la morale même, toutes sortes de choses qui formeraient une politique de la révolte et justifieraient toute politique révoltée en tant que telle. Qu'est-ce qu'une révolte, si c'est pour qu'elle soit matée, si c'est pour qu'elle ne forme rien qui accouche de quelque chose? C'est quoi ce quelque chose? C'est bien évidemment toujours une obligation d'égalité, quand même. On n'en sortira pas, on ne sortira pas de là. Je veux dire, il n'y a pas de révolution qui naît pour principe, trop souvent, ce qu'on appelle le principe de justice, au sujet duquel j'ai les plus grandes réserves, et en tout cas, au moins, une volonté d'égalité. Ça, c'est une connexion. Évidemment, vous pouvez penser que j'en suis à cette articulation-là. Non, je suis sur un mode quasi passif. Je fais l'inventaire. Je mesure quelles sont les ruines. Je mesure d'un côté les ruines et l'inconsolation, de l'autre la morgue et le cynisme. Je dis il n'y a pas moins qu'avant lieu de vouloir la révolution. Vouloir quelque chose.
Mais rien que déjà de dire cela,
c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et alors, oui, c'est ce dont je parlais tout à l'heure au sujet de cette forme d'abandon, d'abandonnement profond dans lequel ont été laissées ce que les générations précédentes, et même un peu la mienne, encore que je n'étais même pas en âge de faire mes 68, c'est quand même une façon de refuser cet abandonnement-là et de verser dans une sorte de cynisme hédoniste, jouissif, individualiste, qui consente au fait que, je disais l'autre jour à la radio, qu'on évalue à 45 millions d'enfants qui vont disparaître dans les 10 années qui viennent, par famine seule. C'est tout à fait étrange quand même. Je vous pourrais parler du sida en Afrique, c'est tout à fait étrange que nous consentions à un monde aussi inacceptable. C'est tout à fait étrange. Donc évidemment, je redis ce qui choque. La révolution est une chose qui est à l'ordre du jour. C'est en tout cas une chose conceptuellement, politiquement, que nous devons garder comme ordre du jour, comme notre ordre moral du jour, notre ordre politique du jour. Et nous ne devons pas le faire sans savoir et sans mesurer que ça a été un désastre jusque-là. Donc c'est vrai que c'est une tenaille étroite et douloureuse. Et j'essaie aussi de dire pourquoi ça a été ce désastre. C'est l'une des raisons, certainement, du désastre que ça a été. Sommes-nous en mesure actuellement d'éviter qu'un tel désastre se reproduise? Certainement, toute révolution a été corrompue très étrangement, non pas par le cynisme, mais par l'idéalité. C'est une bizarrerie qu'il faudrait qu'on pense un jour. Évidemment, je ne nie pas la part, bien évidemment, de la puissance, de la corruption en tant que telle, c'est-à-dire du pouvoir, de la prébande, de la terreur, etc. Ça, indéniable. Mais on pourrait, pour la révolution russe, par exemple, on pourrait dire, alors dans ce cas-là, ça n'aurait commencé qu'avec Staline. Bien évidemment, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Lénine et Trotsky eussent vécu plus longtemps et gouverné plus longtemps. À peu près les mêmes choses se seraient produites parce que la même volonté d'idéalité était en eux, le même messianisme, la même sortie par en haut. Renverser ce qui est en haut, soit, mais bon, pas pour mettre à la place, c'est le haut qui induit l'erreur et le mal et le préjudice. Cette auteur-là est corruptrice en tant que telle. Et si on arrivait à comprendre cela et qu'on arrivait véritablement, c'était les valeurs universelles, ancestrales dont on parlait tout là, qu'on énumérait, et si on voyait une humanité comme celle que vous décrivez en décrivant celle que Guyotat reproduit, elle est sexuelle, elle est marchande, elle est diverse, elle est démente, elle est douloureuse, elle est folle, elle est tragique, elle ne cessera pas d'être tout ça, ou pas comme ça, ou je sais pas. Donc aucune révolution ne métamorphosera, d'où peut-être aussi mon obsession de la métamorphose.
Comment est-ce que vous le voyez, ce livre de la révolution rêvée, qui est un gros livre qui vous a demandé un travail très important, entre les trois volumes de matériologie et les trois volumes de la domination?
Au départ, et pendant que je le faisais, comme assez séparé, évidemment, avec des normes de constance, mais comme assez séparé, obéissant à un autre objectif, celui-ci en avait un vraiment, ayant des raisons circonstancielles.
Oui, c'était expliqué.
La raison circonstancielle, pour moi, c'était effectivement, justement après la chute du mur de 89, et étant bien évidemment d'accord, pour moi, 89 ne représente bien évidemment rien. Il y avait depuis très très longtemps, c'est pour ça que j'ai arrêté le livre en 56, que tout cela était effondré. Mais 89, parce qu'il y avait encore une puissance militaire, à défaut qu'il y ait une puissance idéologique, il y avait une puissance industrielle, à défaut qu'il y ait une puissance morale à l'Est. Évidemment, puissance idéologique et morale étaient perdues depuis très longtemps. Elles n'ont elles-mêmes jamais vécu. Toujours est-il qu'il restait suffisamment pour faire que, de l'autre côté, on ne claironne pas un triomphe, le triomphe de l'ultralibéralisme. Quand j'ai entendu, en 89, 90, 91, sur partout, ce triomphalisme-là se répandre, que j'ai entendu que commençaient les procès contre les œuvres qui avaient ou retardé cet avènement, cette fin de l'histoire, on a entendu quand même. Donc rentrer en procès toutes ces œuvres-là, là je me suis dit, c'était pas possible, il faut quand même produire un récit de cette histoire, tout du moins pour la part qui nous concerne, et ce qui s'est dit en France. De la révolution a été rêvée, des révolutions ont été rêvées par des hommes très différents. Il est faux de dire qu'ils n'ont qu'été communistes ou même marxistes, ils ont été surréalistes, ils ont été existentialistes, ils ont été trotskistes, ils ont été anarchistes, etc. Et il y a une variété considérable, il y a des enjeux considérables, il y a un passionnement de ça chez ces gens-là que j'espère rendre sensibles. Ça a vraiment été quelque chose qui plus est histoire oubliée, elle est née dans la résistance. On aurait, par une réécriture, fait de la libération de la France, le fait seul, que les nazis auraient été chassés du territoire français. Ce n'est pas suffisant pour la plupart. Beaucoup disent, Vichy, c'est à l'intérieur de la France elle-même, et si la résistance n'accomplit pas une révolution, ou n'est pas le moyen d'accomplir une révolution, eh bien la résistance aurait été vaine et la libération sera un vain mot. Et c'est pour ça que le sous-titre de combat dont je me sers, de la résistance à la révolution, est comme une ligne directrice. Donc c'est quand même les instances les plus hautes, les plus fortes, la résistance à l'occupant nazi, le sacrifice quand même de quelques-uns des meilleurs des combattants et des militants qui a permis cela. Pas seulement les armées étrangères, ou les armées françaises à l'étranger, ou les armées étrangères. Il fallait rendre cela fidèlement, il fallait dire, il s'agirait, puisque personne ne le fait, de le faire, mais je n'ai pas cessé de penser tout le temps que je le faisais, que d'autres l'auraient pu faire aussi, et aussi bien, voire beaucoup mieux. Et une fois la chose terminée, je me suis dit, bon, il entre quand même là-dedans pas mal de choses assez personnelles, moins que dans d'autres livres. C'est un livre sans doute assez peu intime, alors que les autres le sont tous, assez peu autobiographique, alors que les autres, d'une façon ou d'une autre, le sont tous. Seule l'instance en est peut-être personnelle, intime et autobiographique. L'instance. Une instance qui est de l'ordre de l'impératif catégorique. Il faut dire le plus justement possible, le plus nombreusement possible, tout ce qui s'est déployé. Mais je vois bien que se reforme dessus déjà maintenant les mêmes clôtures d'interprétation, les mêmes dénégations, parce que c'est une histoire qu'on ne veut pas entendre, et que même le titre déjà est un titre qui provoque une sorte, au moins de perplexité, mais aussi d'irritation.
Et le lien entre la révolution rêvée et ligne, on n'a pas parlé de ligne encore, et on sent vraiment des répercussions de ce travail-là dans ligne.
C'est là qu'il est le plus fort.
Voilà, c'est là où il est le plus fort. Et alors ligne, ça serait... parce que j'ai l'impression que ligne et la révolution rêvée, enfin en tout cas le ligne de toutes les dernières années, pendant que vous avez créé la révolution rêvée sans doute, sont liés, quoique certains numéros de ligne seraient le prolongement de la révolution rêvée.
C'est également. Et d'ailleurs l'autre instance, grâce à vous que j'y pense, parce que je l'ai oublié, c'est bien évidemment la part en moi du directeur de revue, qui a voulu faire ce livre en allant voir ce que les revues disaient, du temps où celles-ci étaient puissantes, ce qu'elles ne sont plus. Mais c'est certain que j'ai voulu lire seul ce que tous avaient écrit, quand en ligne, au contraire, je fais qu'écrivent beaucoup tout ce que je ne peux pas penser seul. Et penser seul en ce moment, c'est tout à fait impossible. Quant à ces motifs et ces objectifs que vous dites, par exemple, ne pas consentir au monde ainsi qu'il est, par exemple, nuire à celui-ci, par exemple, produire encore du désordre pour que quelque chose se rétablisse enfin, pure hypothèse, et une hypothèse peut-être elle aussi à son tour idéalisante, je n'en sais rien. En tout cas, on ne voit pas beaucoup d'effets se produire. Montrer qu'il existe encore de la résistance, c'est évident. Et les deux objets ont été de pair. C'est plutôt que l'auteur du Manimalité, c'est plutôt, encore que les deux livres, effectivement, se répondent. C'est aussi le directeur de la revue Ligne qui a écrit ce livre, oui.
D'accord. On va aborder un petit peu Ligne. Une autre part de votre travail qu'on n'a pas abordé encore, c'est penser avec. Vous ne pensez pas seul.
Non.
Vous êtes créé une sorte de généalogie intellectuelle, notamment avec Bataille, avec Kafka, avec Sade, enfin avec tous ces écrivains. Vous pensez avec eux.
Mais vous pensez également avec vos contemporains, grâce à la revue Ligne. Vous pensez avec Jean-Paul Curnier, par exemple. Mmh. D'ailleurs, vous le dites dans le premier tome de La Domination. Ces variations ont été écrites dans la proximité de la pensée de Jean-Paul Curnier. Nommé ici cet ami ne cherche pas à l'en rendre responsable, seulement à tenter de montrer comment la pensée n'est jamais tout entière réductible à celui qui lui donne sa signature. Donc je trouvais que, après avoir parlé de la Révolution, parler de tous ces gens-là qui pensent avec vous dans Ligne, c'est quelque chose aussi, je trouve, qui vous singularise, de penser avec tout ça. Vous ne pensez pas seul.
Je n'y suffirais pas, je n'y suffis bien évidemment pas. Et d'ailleurs, j'écris de moins en moins dans Ligne parce que j'écoute de plus en plus ce que les autres y écrivent. Donc, j'écoute au sens de lire ce que les autres y écrivent. Et il y avait la généalogie dont vous parliez, qui était une généalogie qui apparaît, qui va Sade, Nietzsche, Bataille, Pascal, que j'ai jamais écrit, mais qui est si important. Il y en a une autre que la Révolution rêvée dessine et que des numéros de Ligne ont dessiné. David Rousset, Robert Antelme, très important. Maurice Blanchot dans sa part politique, bien évidemment. C'est très important. Quelques autres encore que j'ai oublié, Dionis Pascolo a compté, bien évidemment, aussi. C'est une généalogie qui est alternative pour moi, qui est très importante. Elle permet de tracer un sillon dans les années de l'après-guerre jusqu'à maintenant, puisque on a pu connaître Maurice Blanchot, Dionis Pascolo, des gens comme ça. Pour les contemporains, être dans la proximité du questionnement. D'abord pour ne pas être absolument seul, je veux dire même pas seulement au sens intellectuel du terme, mais au sens politique du terme. Je vois beaucoup de mes contemporains souffrir vraiment de cette solitude impuissante dans laquelle on est, ça c'est évident. On l'est moins de l'instant qu'on fait une revue ensemble. Même si cet ensemble-là est un ensemble flou, distant, relâché, chacun... Et ça n'a pas la vigueur des petites communautés qui sont constituées, par exemple, dans des revues aussi prestigieuses qu'Argument ou Socialisme en Paris. Ça n'a pas cette vigueur militante. On pourrait, sans exagérer, mais non plus sans éclairer beaucoup les choses, parler de cette communauté, de ceux qui sont sans communauté, dont parlait Bataille. C'est une définition négative et il y aurait quelque chose de commun, qui nous serait commun, qui nous ferait tous avouer sans l'avouer que nous n'avons de commun que ce qui n'est plus commun à rien d'autre, avec rien d'autre, et rend impossible le mouvement même qui nous anime. Alors, il n'est pas impossible absolument, mais il est en partie impuissant. L'histoire de Ligne est une histoire, pour moi, à la fois infiniment enrichissante intellectuellement, ça c'est évident, mais très belle aussi dans la mesure où des liens d'amitié se sont formés qui sont essentiels, sans quoi même ça serait respirer ça deviendrait très 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 difficile et sans quoi la solitude serait totale. Mais c'est aussi une histoire que je trouve très pénible. C'est l'histoire du recul successif, des pertes de terrain, des défaites. Au lieu que nous soyons offensifs, nous sommes presque constamment sur la défensive. Au lieu que nous étendions le possible rétréci. Au lieu que nous inquiétions, c'est nous qui sommes inquiets. Si bien qu'il est très fréquent que je veuille arrêter Ligne. C'est depuis 2-3 ans, une idée que j'ai de plus en plus souvent. Je vois que se réunissent là des gens qui sont comme moi dans l'idée qu'ils n'ont pas arrêté. Mais c'est davantage une injonction, un caractère moral, qu'une détermination de la volonté politique.
Ça vient du fait que Ligne a été créée pour lutter contre les idées d'extrême droite, enfin les idées.
C'est cela et ce n'est pas suffisant, c'est à la fois ce que vous dites, et en même temps Ligne n'a pas été créée comme ça. Ligne a été créée avec le sous-titre Art, littérature, philosophie, politique, et je pensais vraiment que j'allais faire une revue où il serait question de l'art, de la littérature, de la philosophie et de la politique. Or il n'est question, il faut bien l'avouer, que de philosophie et de politique, parce que contemporainement à sa création, c'est-à-dire qu'en début 88, fin 87, début 88, il y a eu cette très forte pression des extrêmes droites, mais il y a aussi le négationnisme, bien évidemment. Oui, il y avait le procès Barbie, il y avait la volonté de réforme du code de la nationalité, il y avait la poussée d'extrême droite en Europe, dont j'ai aussi composé des numéros, il y avait le bradage idéologique, spirituel et politique de la gauche par la gauche elle-même, si bien que la revue m'a imposé un cours qui n'était pas celui que j'avais voulu. Et c'est le cours de l'époque. Je l'ai laissé, je la laisse encore.
Le dernier numéro.
Oui, c'est ça. Mais c'est ce que je voudrais, c'est ce que je ne voulais pas au départ. On pourra peut-être un jour, en regardant tous ces ces numéros faire un assez juste descriptif de l'époque par ceux qui ne l'aiment pas. Ça serait un peu simple, alors que j'aurais mieux aimé faire une sorte de portrait affirmatif et positif de l'époque, qui ne l'aime pas, qui ne s'y résigne pas, qui n'y consente pas.
J'aurais juste une dernière question pour aborder un peu Michel Suria, éditeur aussi, puisque à côté de la revue Ligne, il y a Ligne Manifeste, grâce auquel vous publiez les textes des autres. Et notamment, vous publiez les auteurs d'une revue allemande qui s'appelle Crisis, auteurs qui sont assez peu édités en France, et surtout par vous qu'on peut les connaître. Vous en avez déjà édité trois. Il y avait Manifeste contre le travail, Les habits neufs de l'Empire, et L'avant-garde inacceptable, le dernier, des réflexions sur Guy Debord. Quel lien tissez-vous avec ce groupe, qui arrive à penser des choses vraiment très radicales? Quel lien tissez-vous avec ce groupe-là?
Les mêmes liens que ceux que je viens de décrire. C'est pas plus étroit que ça. Ils sont venus vers moi, lecteurs de Ligne, pour leurs émissaires français, pour leurs amis français, et traducteurs donc. Et j'étais trop heureux de trouver qu'il y avait une radicalité encore ici. Elle n'est pas de la même nature que la mienne. Ce sont des gens beaucoup plus marxistes que je ne suis. Je ne suis vraiment pas marxiste du tout, ou très peu. Mais je ne pouvais que couvrir les bras à ça. Puisque tout à l'heure on parlait du désordre ou de la nuisance, ça me paraissait que ce sont des adorniens, donc des gens qui sont dans la postérité de l'école de Francfort, avec pas mal de légèreté et d'humour, d'ironie sur le monde, mais aussi un très juste ton. Je les trouve parmi les penseurs. Le prochain livre que je vais publier de Robert Kurz, qui s'appelle La vie en naufragé, c'est un recueil de ses articles. Il doit paraître, je crois, en février. C'est certainement l'une des visions du monde les plus justes que j'ai lues depuis longtemps, pour un penseur que je trouve seulement politique, éminemment politique. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de catastrophisme. Il ne tombe dans aucun des pièges dans lesquels tombe la plupart. Il ne stigmatise jamais, ou très peu. Il atteint à une radicalité efficace, sans ressentiment, sans plainte. Je déteste la complaisance de l'impuissance actuelle. Ou alors on oppose un nihilisme définitif, c'est une possibilité, ou teinté d'une ironie ou d'un sarcasme, qui est la seule chose à opposer à la puissance du cynisme triomphant. Ou alors on entreprend un véritable travail de lecture, de décryptage. Et Kurz, peut-être est-il le plus doué de tout cela. Yap aussi est important, mais Kurz, à mon avis, et ce livre-là le démontrera, fait un travail beaucoup plus profond que Tony Negri, sans l'idéalisme de Negri, sans les impasses dans lesquelles il est en train de retomber. Alors évidemment, cette critique du travail, du manifeste contre le travail, puisque le travail est la valeur, et puisqu'il faut mettre tout le monde au travail, voilà encore l'une des valeurs dont on n'a pas parlé, la valeur prétendue de l'émancipation par le travail. Voilà l'une des choses dans lesquelles le marxisme s'est le plus empêtré, et si bien qu'on voit d'ailleurs les syndicats marxistes ne s'intéressent en aucune façon à ceux qui n'en ont pas de travail, lequel pourrait constituer ce rebut dont je parle assez souvent. En tout cas, c'est un rebut social tout à fait intéressant, le RMiste, qu'on pourrait mettre presque en équivalence avec ces classes dangereuses dont on parlait au 19e siècle et que je fais parler un petit peu dans la critique que je fais de Marx dans Une animalité. Eh bien, c'est un motif de désintérêt. Au lieu que ces gens-là, Crisis, et notamment Kurz, essentiellement Kurz, disent mais c'est fantastique, au contraire, le travail est une aliénation fantastique, en tout cas pour un nombre considérable de gens. C'est le moyen même de l'aliénation, c'est la servitude la plus profonde. Ça commence avec l'école, ça continue dans un motif en plus, qui plus est, aujourd'hui, non toujours, pour beaucoup, encore sous le régime de la plus grande terreur, de la plus grande fatigue, de la plus grande violence physique, mais en plus avec un régime maintenant d'inquiétude, de menaces, de chantage considérable. Alors évidemment, moi, publier des textes comme ça, je suis preneur, c'est évident, et j'espère en publier pas mal d'autres. Ces livres-là ont des lecteurs assez nombreux, contrairement à ce qu'on croit. Évidemment, la presse ne leur fait aucune espèce de place, il n'y a aucun relais critique, mais par contre, ils sont beaucoup lus, ce qui est relativement... c'est une note d'optimisme.
Alors, ma dernière question, vous m'avez fait penser à cette question-là. Je n'ai pas vous demandé ce que vous pensez des différents mouvements altermondialistes, mais peut-être que cet esprit de révolte qu'il peut y avoir chez ces personnes-là. Est-ce que ça vous réconforte?
Oui, la seule critique que je formerais, elle est en même temps radicale, elle est de la même nature, c'est ce qui nous a quand même rapprochés, Chrysis et moi, c'est que je la trouve très angélique. Il y a un grand angélisme, il consiste à spéculer sur le fait que le capital est réformable sur les bords, et donc que seraient corrigibles les inégalités qu'il induit. Ce qui est tout à fait une vue angélique. Évidemment, le capital, dans sa variante ultra-libérale actuelle, qui se propage et qu'on propage jusqu'à nous, jusque dans un espace jusque-là assez protégé, enfin assez relativement protégé, bien évidemment, c'est le contraire. Il y a la taxe Tobin, c'est un remède d'enfant. Alors, peut-être, s'il s'ajoutait, leur spéculation intellectuelle ou politique trouverait-elle quelques crédits si les États puissants, sur l'hégémonie du capital, pouvaient craindre davantage les désordres ici et là. Si le monde devient tout d'un coup exagérément dangereux, sans doute lâcheront-ils du lest ici et là, corrigeront-ils vaguement et aux marges les effets des inégalités induits par le rapport de domination qui est celui qui domine actuellement et qui prévaut actuellement. Il n'y aura de résultat dans la perspective d'une telle politique qu'à la condition qu'elle soit assortie d'une menace réelle. Ce n'est même pas si sûr. On voit bien, par exemple, que le surgissement tout à fait incontrôlable du terrorisme mondial, c'est pas d'illusion, bien évidemment, il est aussi distant que possible des préoccupations réelles et de l'injustice réelle dans laquelle se trouvent les peuples qui s'y reconnaissent pourtant vaguement. Je les déconnecte totalement l'un de l'autre. Mais bon, le fait est qu'il y a quelque chose comme une revanche qui se joue chez ceux qui y applaudissent. Bon, eh bien, on n'a pas vu que cet incroyable enjeu nouveau du terrorisme modifie si peu que ce soit l'appréhension du monde par la domination et l'amène à se dire « Nous jouons avec le feu, nous pensons d'aller rétablir l'ordre par quelques opérations de police mondiale. » Ce monde sera plus sûr, nous aurons maté ici et là quelques foyers qui couvent, mais ils se déplacent, on le voit. L'Irak est devenu le foyer déplacé d'Afghanistan. Donc les mouvements altermondialistes, bien évidemment, ont ma sympathie. La sympathie de quelqu'un qui considère que c'est insuffisant. Mais c'est normal aussi, je ne voudrais pas dire cela pour passer simplement pour radical, ni pour faire la leçon. Et c'est normal aussi, parce que nous avons dit tout à l'heure, que articuler actuellement révolte, ce qu'on voit, a lieu avec révolution, et c'est une articulation en ce moment exagérément problématique, il n'y a pas de penseur actuellement qu'on voit arriver qui puisse, ou des penseurs ou des pensées qu'on voit arriver, survenir, qui réarticulerait la plausibilité historique, la possibilité historique d'une juste révolution, d'une égale révolution, d'une révolution contenue, une révolution. L'attaque, c'est un réformisme. C'est une révolte qui doit accoucher d'une réforme. C'est une vieille question, je l'aborde dans la révolution rêvée aussi. Les gens, il ne s'agit pas de parler de cela avec hauteur à notre tour et de dire celui qui fait le choix de la réforme a tort. Le commerce équitable, bien évidemment, peut faire sourire en disant tiens, nous pourrons avoir l'assurance que le Chinois qui aura fait ça ne sera pas mineur, par exemple. Pas mineur au sens de l'âge. Oui, mais encore, aura-t-on touché réellement aux raisons mêmes de l'inégalité croissante? Non, on aura un peu plus, un peu meilleure conscience de n'avoir pas acheté un café qui se polie si profondément le peuple qui l'aura produit. Ce sont des articulations très difficiles à établir. Je crois que celui qui prétendrait qu'il a la réponse serait évidemment un illuminé ou un fou qui devrait fuir. Les intellectuels sont dans la difficulté. Il s'agirait d'ajuster le plus possible, de voir. La question de la réforme est réelle aussi. L'altermondialisme est un réformisme, en grande partie aussi, quand même, alimenté par des partis révolutionnaires qui existent encore. La domination, pour moi, c'est la somme de trois choses, c'est le pouvoir de disposition du capital, le pouvoir de juger et le pouvoir de propagande. Les médias sont tous devenus du pouvoir de propagande et rien d'autre. Ils disposent de la puissance et d'une puissance de persuasion très considérable. Vous vous étonniez tout à l'heure que le peuple de progéniture ne se révolte pas. Moi, je suis tout à fait stupéfait, mais vraiment stupéfait que ne se révolte pas. Ici, par exemple, 95 est loin, le consentement est total. L'un des numéros d'une que j'aurais le plus faire, que je ferais, ça serait de confier à 10 auteurs de mes amis un traité de la servitude volontaire d'aujourd'hui, écrit par eux. L'une des choses les plus fascinantes, c'est effectivement le pouvoir de ça, de la soumission volontaire.